le voile, de mettre le voile, c'est comme une augure des nuages qui pourront obscurcir la vue du foyer. Mais ce qui peut nous intéresser, surtout, c'est que le pape, à cette époque-là, mentionne les deux cérémonies, bénédiction et vélation, et il ajoute que celui qui viole l'un des engagements sera perçu comme sacrilège. Voilà. Et du coup, excommunié. Et autant vous dire qu'à cette époque-là, pour réintégrer la communion de l'Église, c'était pas du minute au confessionnal. Il y avait des pénitences publiques, des reconnaissances, il y avait une vraie démarche qui se faisait. Dans les rites du mariage, Saint Grégoire de Nazianze va parler aussi de la jonction des mains des deux époux. Et Saint Jean Chrysostome parlera de la participation du prêtre au mariage. Le but, ce n'est pas de détailler la liturgie, mais c'est de mettre en garde le dit prêtre contre les excès qui peuvent s'en suivre dans les réjouissances après le mariage. Donc voilà, il faut qu'il participe au mariage. Après, il faut qu'il reste plus sobre que les autres invités, parce que le prêtre, il faut qu'il sache rentrer, se coucher à l'heure. Mais du coup, se développer aussi, à partir de ce rite du mariage, eh bien, c'est la perception de ce fameux sacramento, le grand mystère. Et dans le langage des terres, cette idée de grand mystère va être de plus en plus utilisée pour caractériser non seulement l'alliance Christ-Église, mais aussi l'alliance entre les époux. Pour saint Augustin, il trouve tous les biens du mariage, y compris chez Joseph et Marie, dans l'ordre de la génération pour accueillir Jésus, dans l'ordre de la chasteté, de l'union des époux. Eh bien, ce grand mystère, ce sacramentum, c'est l'engagement indissoluble, qu'on ne peut rompre et qui subsiste même si l'on y manque. C'est-à-dire que même si il y a une rupture entre les époux, même si ça manquait de chasteté, eh bien le lien du mariage, le grand mystère, lui, subsiste. Donc il va insister énormément sur cette indissolubilité qui est une grande nouveauté par rapport au mariage païen, qui, eux, n'ont que deux biens liés au mariage, la fidélité et la génération. Donc l'utilisation du terme de sacramentum à partir de saint Augustin, ce sera lié très étroitement avec la notion d'indissolubilité et ancré dans ce lien indéfectible entre le Christ et l'Église. Évidemment, ce qui subsiste très largement aujourd'hui, d'ailleurs c'est assez édifiant de voir que très souvent les fiancés qui viennent demander à se préparer au mariage à l'Église, quand on leur demande pourquoi, ils nous disent clairement, j'ai encore entendu il y a quelques semaines, de toute façon, le mariage à la mairie, enfin, il suffit d'avoir un petit peu d'argent et un notaire, et puis hop, on peut divorcer trop facilement, alors que là, c'est un mariage dur tout long. J'ai entendu il y a peut-être deux semaines, encore avec un couple de fiancés. Et évidemment, l'indissolubilité rime de façon très proche avec le sacrement. Voilà, pardon, je n'ai pas développé mes titres au fur et à mesure, mais je vous les ai maintenant. Je fais un petit bond avant, un petit millier d'années peut-être, pas tout à fait, mais... Et on va arriver au premier scolastique. Alors, je vous épargne, bon après il y a bien pas mal de choses dans le développement de l'histoire des mariages, mais c'est plus des petites querelles, mais qui reflètent vraiment ce qui s'est passé dans l'Antiquité chrétienne. Les papes ont toujours par rapport au mariage, tenu sur l'indissolubilité. Même lorsque, et notamment au 7e, à partir du 7e siècle et à peu près jusqu'au 12e siècle, il y a eu des tendances parfois à vouloir rendre possible les divorces. Par exemple, si l'un des deux entendait soudainement un appel à la vie religieuse. Et le Saint-Père dit, non, vous êtes marié, vous êtes marié. Donc c'est quelque chose de très fort. Le premier vrai développement théologique sur le sacrement de mariage, on va le trouver chez un moine qui s'appelle Hugues de Saint-Victor. L'abbaye de Saint-Victor, c'est une abbaye assez réputée pour ses études théologiques au XIIe siècle. Première moitié du XIIe siècle, Hugues de Saint-Victor va décrire le mariage comme une société. Et je le cite, je n'ai pas mis la citation sous les yeux, « Le consentement spontané et légitime par lequel l'homme et la femme se constituent débiteurs l'un de l'autre, voilà ce qui fait le mariage. » Le mariage est la société même formée par l'accord de ces deux volontés qui lie les deux époux, débiteurs mutuels, leur vie durant. Donc il insiste beaucoup sur cette société-là qui est constituée. Et il va insister pour la constitution de cette société sur le fait que le mariage doit être spontané, libre, et reposant non pas seulement sur une promesse, mais sur une intention actuelle. Quelque chose qu'on retrouve complètement maintenant, lorsque on regarde, il faut que les quatre piliers du mariage soient bien clairs au jour du mariage. Fidélité ou la fécondité, liberté et indissolubilité. Et si on se marie librement et qu'une semaine après, madame enchaîne son époux à la cave et qu'il n'est plus libre, et qu'il doit. Et il est quand même marié. Parce que l'intention actuelle, si elle avait, au jour du mariage, dit, en délivrement, et dans une semaine j'enchaîne, l'intention actuelle n'est pas celle de la liberté, et par conséquent, le mariage n'existe pas. Et donc ça remonte, voyez, à cette définition que nous donne Hugues de Saint-Victor, qui ne rejette pas du tout les conditions légales pour le mariage. Histoire de la dot, par exemple, ou l'accord réciproque des parents, où il faut qu'ils puissent donner leur accord, mais s'ils montrent leur importance de ça, l'accord des parents à la dot, pour la preuve du mariage, ils vont mettre la vérité du mariage ailleurs. Vous voyez, dans cette intention libre qui lie les deux époux. Et surtout, il va essayer de, enfin, il va vouloir déplacer le fait même du mariage de la licence de l'union charnelle, grosso modo, c'est ça, de la licence de l'union charnelle à l'accroissement de la charité. Voilà ce qu'il dit. Cet office cessant, il ne faudrait point croire que la vérité ou la vertu du mariage cesse. Au contraire, le mariage est d'autant plus vrai et plus saint qu'il est formé par le seul lien de la charité et non par la concupiscence charnelle et l'amour de la volupté. Voilà, donc il enracine ça spirituellement dans cet accroissement de la charité tel qu'on le développe encore aujourd'hui. L'union charnelle, pour lui, ce n'est que l'office des époux, tandis que l'union des cœurs, c'est vraiment le fond du mariage. Pour aller un petit peu plus loin, et toujours en s'appuyant sur l'Épître aux Éphésiens, Hugues de Saint-Victor va s'appuyer sur le terme de copula, l'union charnelle, qui va appliquer notamment à l'union d'intimité entre l'âme et Dieu. Voilà ce qu'il dit. L'amour conjugal est le sacrement de l'amour spirituel entre Dieu et l'âme. L'union charnel entre les époux est le sacrement de l'association réalisée entre le Christ et l'Église par le sacrement de l'incarnation. C'est énorme, hein, ce qu'il dit là. Vous voyez, je vous redis, L'amour conjugal est le sacrement de l'amour spirituel entre Dieu et l'âme, et l'union charnelle entre les époux est le sacrement de l'association réalisée entre le Christ et l'Église par le sacrement de l'incarnation. On passe donc par cette union charnelle. Et donc, il reprend les trois biens du mariage de Saint-Augustin, et il va placer le mariage même comme le sacramentum, le mystère, et puis la confiance réciproque et l'ouverture à la génération plutôt au rang de l'office des époux. L'union des cœurs et l'office des époux. À la même époque, on a un certain Gratien qui va être chargé de légiférer sur le mariage. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans une définition magistérielle du mariage. Alors, le décret de Gratien, c'est le point d'appui formé de toute la théologie sur le mariage depuis. C'est quelque chose d'assez important. Donc, c'est composé vers 1140. Et ce décret, en fait, il a pour but de rétablir l'harmonie entre différents textes canoniques à ce sujet-là. En fait, jusqu'à cette époque-là, que grosso modo, oui, c'est le XIIe siècle, et puis ce sera vraiment mis en forme à partir du Concile du Latran en 1215, la vie légale de l'Église se faisait par conciles locaux. Voilà, donc on faisait un concile à Tours pour l'ouest de la France, voilà, il y avait un concile à Tolède en Espagne, et donc les choses étaient relativement harmonisées, mais pas complètement. L'illustration la plus grande qu'on ait de ça, c'est ce que le Concile de Trente aura fait en donnant un seul mystère pour toute la liturgie de l'Église, alors qu'il y avait auparavant un rite des Vénètes, des Bretons, des Vénitiens aussi, et puis à Lyon. Alors certains ont réussi à garder l'heure parce qu'il était très antique, le rite lyonnais, le rite ambrosien. Voilà, et puis les dominicains, parce que le pape était dominicain, donc ils ont réussi à avoir des trucs. Mais c'est des petits, j'allais dire des petits détails, mais on a à ce moment-là, enfin, à la fin du Moyen-Âge, essayé d'unifier tout ça. Et déjà au XIIe siècle, donc le décret de Gratien vise à ça, à propos du mariage. Alors on ne va pas s'arrêter sur tout le contenu du décret. Mais Gratien va mentionner comme valide et terrestre le sacrement de mariage lorsqu'il est sacramentum ratum. Ça veut dire sacrement certifié, effectué, ratifié. Qu'est-ce qui ratifie le mariage? Eh bien, c'est qu'il y a évidemment le contrat, mais il y a aussi l'union charnelle des époux, normalement ouverte à la génération. Donc, dans son décret, il ne suffit pas de s'être promis, mais il dit la volonté antérieure de contracter mariage et le pacte conjugal ont pour effet que la copulation réalise le mariage. Donc cette fameuse consommation du mariage est importante. Et il va considérer comme important aussi, comme indispensable, le consentement des deux parties, en tenant encore lui sur le fait que les enfants ne peuvent pas se marier sans le consentement des parents. Et il va arriver au cas qu'on trouve dans l'évangile de Saint Matthieu. Oui, mais si son épouse est adultère, est-ce que celui qui a renvoyé son épouse ou son épouse en cas d'adultère peut se remarier? Et lui dit, lorsque le mariage est ratum et consumatum, c'est-à-dire ratifié et consommé, il est indissoluble. Voilà. Au même moment, toujours au XIIe siècle, enfin XIIIe siècle, un petit peu plus tard, on va avoir deux professions de foi qui vont être adressées l'une aux Vaudois et l'autre par les églises grecques et latines, qui vont mentionner, et ça c'est important, le mariage comme faisant partie du septénaire sacramentel, faisant partie des sept sacrements de l'Église. Donc on a la première liste qui existe, les sept sacrements comprenant le mariage. Avec un débat théologique qui s'installe, évidemment. Parce que quand on résout une question, il y en a une qui s'ouvre. Hein. C'est comme ça qu'on occupe les théologiens. Donc il y a un nouveau débat théologique qui s'ouvre pour savoir si le sacrement est valide lorsque les époux se marient pour une raison qui n'est pas celle des fins du mariage, à savoir la monogamie et l'indissolubilité. Et alors on y répond en disant « Le mal n'est pas un facteur de bien en tant que mal, mais il l'est par le bien qui y est annexé. » Donc voilà. Donc même si les raisons ne sont pas tout à fait honnêtes, une fois que le mariage est scellé, consommé, il existe bel et bien. Mais surtout, on va insister pour montrer que le sacrement, qui est le signe d'une réalité spirituelle, va bien montrer cette alliance entre le signe et la réalité. D'où l'insistance justement sur le fait que le mariage soit consommé. Alors, la grâce du sacrement de mariage. Les doutes sur le mariage, évidemment, sur la nature du sacrement mariage, ils ont perduré un petit peu. À l'époque du Concile de Trente, on est dans la lutte contre la réforme de Luther. Luther remet en cause la vérité sacramentelle. Pour bien comprendre ce dont ils jouent, il faut se souvenir qu'ils sont même le sacrement, c'est le signe visible d'une réalité invisible instituée par Jésus-Christ en vue du don de la grâce. Ça, c'est normalement la définition qu'on a appris au catéchisme. Et ce sacrement, donc, il signifie et il exprime la grâce, mais en plus, il la produit en faisant en sorte que chez la personne s'accomplisse l'œuvre du salut. Comme les réformateurs ont un problème avec ce don de la grâce, ils ont de soi, de fait, un problème aussi avec la nature surnaturelle du mariage chrétien, la vérité surnaturelle du mariage chrétien. Et puis, quand on parle du Christ comme celui qui institue et donne la perfection au sacrement, il y a un doute. Le mariage a été institué par Jésus-Christ. Le mariage existait bien avant. Alors pourquoi est-ce que Jésus aurait institué un sacrement, et qu'il l'a élevé au rang de sacrement? Et c'est vrai que l'argument de dire que c'était avant Jésus, c'est en fait que ça n'était pas un sacrement. Les sacrements, c'est Jésus qui les a inventés. Les baptêmes, confirmation, eucharistie, pénitence, sacrement de l'ordre, c'est Jésus, bien évidemment. Alors que le mariage le précédait. Alors, pour bien comprendre cette réalité-là, évidemment, on va travailler au Concile de Trente, il faut bien se souvenir que la réalité naturelle, qui est le socle, n'est pas la totalité du mariage chrétien. Elle est la base, la matière, sur laquelle s'appuie le sacrement de mariage. De même que le pain et le vin ne sont pas la totalité du sacrement de l'Eucharistie. Mais, dans la réforme de Luther, en fait, ils subsistent du pain et du vin après. C'est pas la totalité, c'est la base. Il faut du pain et du vin, et ça devient le corps et le sang du Christ. Donc évidemment, s'il touche à une dimension humaine certaine, le mariage chrétien ne se limite pas à ça. Et le Christ bénit par l'institution du mariage, enfin bénit cette institution du mariage par sa présence à Cana en Galilée. Quel est le but alors d'avoir une grâce particulière. Parce que si le mariage en soi naturel existe, pourquoi lui donner une grâce particulière? D'ailleurs, concrètement, si on regarde aujourd'hui, les sports ne sont pas forcément meilleurs chez ceux qui ont un mariage dûment démis à l'Église. Il y a aussi des faillites et des difficultés. Donc ça ne garantit pas une vie sereine pendant 70 ans. Et la grâce du sacrement de mariage, elle est là pour perfectionner l'amour naturel des époux. Elle vient confirmer et sanctifier leur union. Si le Christ offre sa vie pour l'Église, on pourrait arguer que l'Église n'a rien à offrir au Christ. Donc pourquoi sanctifier le mariage? Le Christ donne sa grâce et qu'est-ce qu'il aura en retour? Souvenez-vous de ce que dit le texte de l'Épître aux Éphésiens tout à l'heure. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Donc en fait, l'Église, elle offre quelque chose au Christ en retour. Elle offre sa beauté, son amour, sa fidélité. Ça, le Christ le reçoit évidemment comme un hommage. Et donc, il y a une vraie réciprocité. Et c'est sur la base, justement, de cette réciprocité, de cette alliance, que se fonde l'indissolubilité du sacrement de mariage. Pour pouvoir non seulement y voir le perfectionnement de l'amour réciproque des époux, mais aussi le sceau du Christ qui, par sa grâce, les rend toujours plus beaux, fidèles, l'un à l'autre. Et c'est un sceau indestructible, de même qu'il est impossible de séparer le Christ de l'Église. Même quand il monte au ciel, même quand il meurt en croix, le Christ n'abandonne pas son Église, il lui donne de vivre autrement, du don de sa propre vie, et de ce fait même, il envoie l'Esprit Saint pour qu'elle vive de son amour, de l'amour du Père et du Fils. Mais si on ne comprend pas ce phénomène d'amour-là, ce lien indissoluble qui lie le Christ à l'Église, le mariage, effectivement, va perdre ses caractéristiques d'indissolubilité. Et ça, le Concile de Trente aussi a voulu énormément insister là-dessus. Enfin, je voudrais parler de la grâce dans ce mariage sacramentel. La grâce, c'est un don surnaturel qui concerne l'âme et le lien avec Dieu. Un don que Dieu nous donne en vue de notre salut, en vue d'être sauvé. Il y a la grâce sanctifiante ou habituelle, la grâce actuelle, donnée ponctuellement à travers des actes précis. Et dans le mariage, il y a une grâce, bien évidemment, qui est donnée au jour même où on reçoit la bénédiction des époux, mais il y a aussi une grâce habituelle qui dépend de la manière de vivre le mariage et notre foi. Cette grâce, elle est là pour perfectionner, comme on l'a dit, l'amour naturel entre les époux. Et c'est pas simplement un ajout. Vous savez, comme un peintre mettrait du fixateur sur ses pastels, là, voilà, pour que ça tienne. Et là, on mettrait de la grâce sur le mariage, pour que ça tienne. Non. La grâce, on dit, et c'est la définition que donne saint Thomas d'Aquin, la grâce, elle élève la nature et elle la perfectionne. Elle ne s'y substitue pas, elle vient reposer sur la nature, elle vient l'élever et la perfectionner. Donc elle s'y insère, elle s'insère dans la nature, elle agit donc de l'intérieur. Et ça, c'est tout le rôle de la grâce du sacrement mariage. Quand, par cette grâce, la vie même du Christ vient s'immiscer dans la vie des époux, à ceux-ci, ils sont sanctifiés et mis en contact avec la vie du Christ, la vie même du Christ. Et ça, c'est le point fondamental, c'est que ça nous met en rapport avec la sainteté qu'est le Christ. Et une des grandes définitions qu'il a développée à partir du Concile de Trente, et qui va prouver son point de rebondissement dans le Concile Vatican II, c'est l'appel à la sainteté. Le mariage n'est pas simplement pour que ça se passe bien sur cette terre, mais il est un sacrement, et tout sacrement est donné pour la sainteté personnelle. Et donc les époux deviennent responsables de la sainteté l'un de l'autre. Alors, une petite dimension canonique maintenant. Pardon, je ne défile pas les titres en même temps que je parle. Désolé. Pour comprendre l'aspect juridique du mariage catholique, il faut comprendre le fonctionnement de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des fidèles, chacun ayant sa vocation propre, sa place. On n'a pas d'abord un rôle à tenir dans l'Église. On n'est pas d'abord la Madame Chanson à la messe, ou la secrétaire paroissiale, ou le prêtre, etc. On est d'abord membre de l'Église par le baptême. Et ce baptême nous engage normalement au sein de l'Église. C'est du baptême que viennent les différentes vocations où on peut être appelé à exercer telle ou telle responsabilité dans l'Église, à recevoir tel sacrement, etc. La question de la vocation dans la vie chrétienne, ça a quelque chose de très intime parce que ça nous touche de manière strictement personnelle. C'est vrai. Ça m'engage personnellement. Mais toujours en lien avec l'Église, qui est la grande famille des chrétiens. Vous connaissez la phrase de saint Augustin, « Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. » Voilà. Aucune vocation, aucun appel ne se comprend sans cette dimension de la communion des saints. Eh bien, il n'y a jamais de séparation entre la vie de l'Église et ma propre vie de chrétien. Évidemment, je suis appelé à me sanctifier, mais je ne me sanctifierai jamais de manière isolée de l'Église. Même quand je rentre au confessionnal, pour dire secrètement des péchés que j'ai pu faire complètement secrètement, en pensée, en se disant, bah, c'est un peu long, il parle d'une manière monotone, etc. C'est un péché, hein, penser ça, de celui qui enseigne. Bien, lorsque vous allez vous en confesser, en fait, chacun se retrouve remis en grâce, dans un état de grâce vis-à-vis de Dieu. Et ça concerne l'Église aussi. Et si l'Église dit à ses fidèles, allez vous confesser une fois par an, c'est pas parce que les prêtres manquent d'occupation. C'est parce que il est absolument nécessaire de réparer une Église que l'on abîme par notre péché personnel. Voilà, donc, tout a une dimension ecclésiale. Et cet aspect, c'est pas d'abord un aspect d'organisation ou d'institution, mais c'est un principe spirituel. Alors, pour se structurer, l'Église, qui repose sur la vie spirituelle des fidèles, a aussi une face organisée, qui est son droit canon. Mais le droit canon n'est pas simplement une institution, une organisation, c'est le reflet de notre vie spirituelle. Enfin, il est ancré sur la vie spirituelle de l'Église. Donc l'Église, comme entité spirituelle, tout en restant garante aussi des réalités terrestres, s'organise pour répondre à sa vocation de transmission de la foi. Et le Code du droit canonique va nous donner, notamment sur le sacrement de mariage, un certain nombre d'indications, la manière de le préparer sur qui est concerné par le mariage, l'âge du mariage, comment le célébrer, ce qu'il entraîne dans la vie des époux. Il y a quelques éléments que je voudrais en tirer avec vous. Ce code, donc, il a été, la dernière édition elle date de 1983, puis après il y a des mises à jour tout le temps. On a un pape qui est extra pour ça. Il va lancer des mises à jour comme ça. Un matin, il y a un motu proprio qui sort, qui a un truc qui a changé. Voilà. Donc, il est à fond là-dedans. Voilà ce que nous dit le code de droit canonique sur le mariage, au numéro 1055. L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevé par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Voilà, la définition du mariage, de l'alliance matrimoniale, c'est entre un homme et une femme, je viens de le préciser maintenant, pour une communauté de toute la vie, fondée sur une origine naturelle, pour le bien des conjoints, la génération et l'éducation des enfants. Et ça, ça a été élevé à la dignité de sacrement. Alors, le droit va un petit peu ausculter ce qu'est le mariage. Le Concile Vatican II, lui, va le définir et se reprit aussi dans le droit canon comme le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. Donc, le Concile insiste sur le don-réception. On va dire avec le droit canon que le pacte du mariage a pour but la communauté de vie et d'amour qui se fonde sur l'unité et l'indissolubilité que le sacrement, l'aspect sacramentel, rend particulièrement solide. Le mariage va être considéré véritablement comme un développement de la vocation chrétienne dans l'Église. À tel point, et ça c'est Jean-Paul II qui reprendra ça dans son exhortation apostolique Familiaris Consortio, qu'il parlera du ministère conjugal. Il s'appuie sur saint Thomas d'Aquin, il compare le ministère du prêtre au ministère des parents en disant qu'il y a quelque chose d'identique, sauf que le prêtre, lui, éveille à la vie spirituelle, alors que les parents ont pour rôle d'éveiller à la vie charnelle et à la vie spirituelle. Voilà. Ce que je résume, moi, en général, en disant que pour nous, c'est assez facile, parce que nous, ce qu'on fait de plus grand, c'est quand même de donner le bon Dieu aux gens. Et pour ça, il suffit d'avoir du pain, du vin, de dire les paroles de la consécration en ayant l'intention de faire ce que veut l'Église. Les parents, eux, ils reçoivent des petits bébés, là, de 3,5 kg, 4 kg, ça dépend. Et une fois qu'ils ont reçu ça, ils doivent restituer à Dieu des saints. Et ben, pour nous, c'est un peu plus simple. Hein. Et en plus, nous, on fait la quête à cette occasion-là, alors que les parents, eux, ça leur coûte. Ah, voilà. Voilà, donc le mariage correspond vraiment à cet appel à la sainteté, toujours fondé sur la base de la charité, un ministère qui est celui de l'amour. Ce que le droit canon va mettre en relief à partir de ça, c'est que le sacrement, en particulier le sacrement mariage, va donner une particulière participation à la mission de l'Église. Et ça, on le retrouve exprimé d'une manière assez claire dans les bénédictions nuptiales du rituel du mariage, où on invoque la bénédiction sur les époux, et en général, à la fin, ça dépend des bénédictions nuptiales, il y en a certainement, 6 ou 7, je crois, dans la bénédiction nuptiale, on demande que, justement, ils prennent part à la mission de l'Église, les époux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés, le lendemain de leur mariage, il y a plein de formes de s'inscrire pour faire un rôle dans la paroisse, et faire rôle. C'est un silence haut, hein. Mais il y a plein de formes pour développer ça. Mais il y a un aspect nécessairement missionnaire si on veut vivre de ce sacrement. Le mariage, il va être défini comme célébré par les époux eux-mêmes, notamment dans la dimension où il est, on va appeler ça le mariage in fieri, le droit met une petite distinction, in fieri qui constitue l'union et le rapport entre les époux, c'est le contrat de mariage, si vous voulez. Et en ce sens-là, alors c'est pas complètement défini dans la théologie de l'Église, c'est pas... Mais beaucoup vont s'appuyer sur ça pour montrer comment les époux sont eux-mêmes ministres du sacrement. Et, hein, je vous passe les détails, mais c'est un peu compliqué dans la théologie du sacrement de mariage, parce que pour un sacrement, il faut un ministre, bien sûr, une matière et une forme. La matière, par exemple, du sacrement de l'Eucharistie, pain, vin, la forme. Parole de la consécration, ministre, le prêtre. Voilà. Matière du sacrement de pénitence, vos péchés ou les miens, avec l'aveu total des péchés. La forme, la parole d'absolution, le ministre, le prêtre. Voilà. Pour le mariage, c'est quoi la matière? L'homme et la femme. Ben oui, mais ça ne suffit pas, c'est l'échange des consentements. Donc, voilà, mais c'est une matière qui n'est pas très matérielle. Donc, c'est l'échange des consentements reposant sur les quatre piliers. Et la forme, c'est quoi? Ben, l'échange des consentements. Et le ministre, c'est qui? On peut se marier sans avoir... Alors, c'est assez compliqué. Et finalement, la théologie avance surtout d'une manière assez générale, même si ce n'est pas communément admis ni ancré dans le magistère, donc c'est encore discutable, etc. Mais on va dire assez couramment que les époux sont eux-mêmes les ministres du sacrement. Bon, la matière, c'est l'échange de leur consentement. Et le prêtre, le diacre, il est là pour bénir. Voilà, au nom de l'Église. Et du coup, il y a quelque chose qui est assez, assez fort aussi dans ce sens-là pour les époux, parce que ça leur donne un rôle très, très important. Dieu leur fait directement confiance. Et nous, nous on bénit, mais après on sera levé dans un coup. Voilà, et puis une autre donnée qui est importante dans le sacrement de mariage du point de vue canonique, c'est que le mariage valide entre baptisés, il est appelé conclu seulement s'il n'a pas été consommé, et conclu et consommé si les conjoints ont posé entre eux de manière humaine l'acte conjugal apte de soi à la génération auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair. Donc, ce n'est pas uniquement l'union charnelle, mais c'est l'union charnelle apte de soi à la génération. Ça vient présupposer, ensuite, parce que il y a la nature et il y a beaucoup de choses, etc. Mais, vous voyez, ça pose la question, par exemple, du refus de la génération. Une union charnelle fermée systématiquement à la vie, et c'est pour ça que dans les piliers du mariage, il y a cette fécondité qui est inscrite. Voilà, du point de vue de la... Le mariage, il est fait pour la sainteté des époux. Le Concile Vatican II, notamment, va rappeler avec force que chaque chrétien est appelé à la sainteté. C'est-à-dire qu'il est appelé à anticiper autant que possible la vie du ciel qui est terre. Et cet appel à la sainteté pour les époux se poursuit à travers leur mariage. À partir du moment où on est marié, c'est en vivant conformément à sa dignité d'époux qu'on peut parvenir à la sainteté. Et c'est à ça qu'est ordonnée la grâce qui est donnée par le sacrement. Pour que chacun puisse progresser personnellement dans le cadre de son état de vie et se sanctifier, et que ainsi, réciproquement, ils s'entraînent l'un et l'autre vers la sainteté. Et là, je vous ai cité Pie XI dans la lettre encyclique sur le mariage Testimonium Dei. Ce n'est pas en effet pour les chrétiens un mot vide de sens en élevant le mariage de ses fidèles à la dignité d'un vrai et réel sacrement de la loi nouvelle, notre Seigneur, qui a institué et parfait les sacrements, a fait très effectivement du mariage le signe et la source de cette grâce intérieure spéciale destinée à perfectionner l'amour naturel, à confirmer l'indissoluble dignité et à sanctifier les époux. Voilà, donc les époux se dirigent ensemble dans le cadre du mariage vers la sainteté. Et c'est désormais leur chemin de sainteté. C'est vécu non seulement dans le mariage, mais par le mariage et dans cet état de vie. Alors, question. La foi. On a abordé des aspects un peu pratiques du mariage catholique. Et le fond, c'est quand même la foi. Il y a eu, notamment dans les années 2000, le cardinal Ratzinger, puis le pape Benoît XVI, ont beaucoup travaillé ça pour savoir si la foi ou le manque de foi pouvait être dirimant pour la vérité du mariage. Comment vivre en vérité le sacrement de mariage, si par exemple l'un des époux n'a pas la foi, ou perd la foi. Voilà, c'est quand même une grande question. Alors, le code de droit canonique ne parle pas du tout de la réalité de la foi dans le mariage. Il parle de la réalité naturelle du mariage comme un pacte irrévocable, homme et femme. Il parle d'une confiance réciproque. Mais on sent bien que la foi en Dieu, soutenue par la grâce divine, est aussi un élément très important pour vivre le dévouement mutuel, pour vivre la fidélité conjugale. Voilà, alors il ne s'agit pas d'affirmer que la fidélité ou les autres propriétés du mariage ne sont pas possibles quand ça n'existe pas entre nos baptisés, bien évidemment. On voit bien que des mariages naturels peuvent tout à fait exister et subsister, heureusement. Donc, dans la vie naturelle, il y a déjà quelque chose qui provient de l'amour de Dieu. De toute façon, l'amour en lui-même est de Dieu. Même si celui qui le vit ne le sait pas, même s'il n'est pas baptisé, même s'il n'a aucune connaissance de la révélation, Saint Jean le dit bien dans sa première épître, tout ce qui est amour vient de Dieu. Dieu est amour. Voilà, donc Dieu se cache là quand même. Mais si on refuse la foi, s'il y a une fermeture à Dieu, ou s'il y a un refus de la dimension sacrée de l'union conjugale et de sa valeur dans l'ordre de la grâce, ça rend quand même les choses beaucoup plus compliquées. Le modèle élevé du mariage, selon l'union Christ-Église, est quand même beaucoup moins visible. Là. Et on peut se demander si ça ne pourrait pas atteindre même la validité du pacte, au cas où ça pourrait se traduire par un refus du principe, par exemple, de l'obligation conjugale de fidélité ou de d'autres obligations essentielles ou propriétés essentielles du mariage. On parle des époux chrétiens comme une seule chair. Et Tertullien dit que les époux chrétiens sont vraiment deux en une seule chair, et là où la chair est unique, l'esprit est unique. Ils prient ensemble, ils s'inclinent ensemble et jeûnent ensemble. Chacun enseigne à l'autre, l'un honore l'autre, l'un soutient l'autre. C'est très beau ce qu'écrit Tertullien qui exalte le mariage. Mais on voit aussi qu'il y a des situations qui sont difficiles. On peut prendre le cas par exemple de Anne-Marie Taïdji, en Italie, qui s'est sanctifiée dans le mariage, pour le coup, à cause de son époux. Voilà. On peut se sanctifier l'un par l'autre, et on peut se sanctifier l'un à cause de l'autre. Enfin, c'est-à-dire que son époux était tellement insupportable et tellement en opposition à la foi, qu'elle, c'est dans sa fidélité intérieure qu'elle a tenu. C'est le cas aussi d'Elisabeth Le Seul, plus proche de nous, peut-être, et qui, elle, a fini par avoir la peau de son mari, puisque après, quand il est devenu veuf, il a lui-même lu les carnets de sa femme, et il a fini dominicain. Donc, pour un radical socialiste anticléérical, c'est une belle progression. Mais du temps du vivant de sa femme, il n'y a pas donné beaucoup de gages, hein, ce point de vue-là. Voilà, donc, la foi, elle est quand même importante. La foi, elle est aussi importante dans la réalisation de ce que saint Augustin appelait le bien conjugal, le bien des époux. Il y a quelque chose qui peut être nécessaire pour vivre une vraie union de communion. Voilà, alors, Benoît XVI, qui a pas mal travaillé cette question-là, dit que, évidemment, la foi est un élément constitutif du mariage, mais lorsque la foi défaille, la grâce peut continuer à agir. Voilà. La question, elle était assez concrète, elle a été posée par le tribunal de la pénitencerie apostolique, qui est un rote, qui s'occupe des questions de reconnaissance de nullité et de choses comme ça, et de savoir si le manque de foi pouvait légitimer la reconnaissance de nullité d'un mariage. Alors déjà, il faudrait inventer un pistéomètre, puisque c'est la foi. On a pris pour mesurer la foi des époux, l'un et l'autre, pour savoir où est-ce qu'ils en sont, pour pouvoir dire si réellement elle est absente. On peut parler aussi du cas des mariages mixtes. Le cas du mariage mixte, c'est un mariage célébré entre une personne non baptisée ou accueillie dans l'Église catholique après son baptême et une personne appartenant à une communauté. À une église, une communauté ecclésiale qui n'a pas la pleine communion avec l'Église catholique. Pour le célébrer, il faut une autorisation, une dispense de l'autorité, c'est-à-dire de l'évêque. La raison, elle est simple, c'est que s'il y a le socle commun de la foi dans ces grandes lignes, il n'y a pas la pleine communion, ni la pleine identité de foi. Et donc, il y a des réserves qui se font de ce point de vue-là. Pour la partie catholique, dans ce cas, eh bien, on demande une déclaration d'intention spécifique dans laquelle la partie catholique s'engage notamment pour l'éducation catholique des enfants. Ce qui est une condition sine qua non pour obtenir la dispense de la part de l'évêque. Et les deux parties, évidemment, peuvent être instruites sur les fins du mariage et ses propriétés, c'est-à-dire être informé, enfin, la partie non catholique, chrétienne non catholique, notamment sur les quatre piliers. Parfois, il peut y avoir aussi des mariages avec disparité de culte, c'est-à-dire entre religions différentes. Là, c'est pareil, il y aura les mêmes engagements, mais il n'y aura qu'une bénédiction. Et puis il y a des cas assez rares, mais où le mariage peut être célébré secrètement. C'est dans les cas où il pourrait y avoir scandale ou offense contre le sacrement. Alors, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête, mais dans des cas très particuliers, généralement un recours est fait à Rome pour ça. Si rien ne vient contre la sainteté du mariage, alors il y a un mariage qui est célébré secrètement et qui est tenu dans un registre secret à l'évêché. Voilà. Alors la permission de célébrer en secret le mariage, elle comporte le secret dans l'enquête. Évidemment, on ne va pas publier les bans pour un mariage secret, c'est futures, et garder secret de la part de l'ordinaire, du lieu, de l'assistant, des témoins, des époux, au sujet du mariage célébré. Alors, je ne sais pas très bien dans quel cas, de toute façon, même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire, parce que je voudrais dire que j'aurais vu un mariage secret, je ne pourrais rien dire. Mais je ne sais pas très bien dans quel cas ça peut s'appliquer. Je n'ai pas d'exemple pour illustrer ça. Toujours est-il que ces effets du mariage, quels qu'ils soient, touchent le lien perpétuel et exclusif. Un lien perpétuel, donc on a largement évoqué, un lien exclusif qui est celui de la fidélité, et notamment sur le sens du sacré. On a parlé tout à l'heure du fait que si le mariage était rompu, il y avait quelque chose de sacrilège. La force et la quasi-consécration du sacrement, il faut bien la comprendre. On parle de ce sacrement dans l'Église, parce que justement c'est un signe institué par Jésus-Christ. Le sacrement de mariage a donc une valeur plus grande que la seule relation humaine. Il s'agit d'un lien en Dieu, un lien sacré qui est établi entre les époux. Et donc ce lien sacré du mariage représente une réalité sacrée, quelque chose de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est exclusif. Le rompre, c'est rompre quelque chose de sacré, comme un objet sacré, comme dégrader une église ou mépriser les représentations de Dieu ou de la sainteté. Autre effet du mariage, c'est évidemment les devoirs des parents. Alors ça, c'est ce qui rejoint le plus pour moi l'engagement qui est lu à la mairie. Et enfin, cet engagement, ce devoir des parents, se traduit par la vie de l'Église domestique, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. La perspective de la sainteté, je l'ai déjà parlé. Alors, je l'ai déjà évoqué, pardon. Quelques cas particuliers. Le mariage peut être reconnu comme nul, on l'a déjà mentionné, lorsque les piliers n'ont pas été respectés ou lorsque la forme du mariage n'a pas été validement suivie. J'ai pour ça un exemple en tête. Dans un mariage célébré dans des paroisses où j'étais passé, a dû être recélébré à l'évêché. Parce que c'était un prêtre extérieur qui était venu le célébrer, qui n'était pas tout à fait en pleine communion avec l'Église et qui avait utilisé un rite de mariage qui n'était pas un rite ni de la forme extraordinaire ni de la forme ordinaire, mais un rite encore annexe. Et donc, quand ça a été signalé le péché, le chancelier a fait revenir les époux, rituel du mariage, de témoins, et vous vous remariez. Voilà. En fait, c'est pas juste une question de forme. C'est que aussi le rite du mariage nous est donné par l'Église et il y a une histoire de communion avec l'Église. Et c'est.